Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon.
Née avec la Seconde République espagnole, une génération d'enfants a vécu le traumatisme de la retirada pour entrer de plein pied dans la Seconde Guerre mondiale. Quel regard ces enfants ont-ils porté sur ce conflit d'adultes dans un pays qui n'était pas le leur? Cette génération perdue pour l'Espagne a-t-elle été gagnée pour autant pour une France qui ne voulait pas d'elle? Pour cet épisode, deux témoins. Vida Esgleas Monseni, fille de Germinal Esgleas, militant de la CNT, et de Federica Monseni, militante de la FAI et ministre de la République espagnole. Ainsi que Juan Parra, fils d'un membre de la garde rapprochée du gouvernement républicain. Ils ont respectivement 5 et 2 ans à leur arrivée en France.
Mon enfance s'est arrêtée à 5 ans. Je ne sais pas par quel moyen on a atterri à Paris. Et là, ça a été un chamboulement perpétuel parce qu'on était obligé de changer de maison à tout bout de champ parce qu'il y avait la police de l'immigration qui, chaque fois qu'ils savaient qu'il y avait un étranger quelque part, venait, perquisitionnait. Donc, une fois qu'on était découvert, il fallait changer encore de maison. Tout ça. On a bien changé 5-6 fois de maison. Je voyais les gendarmes arriver, tout retourner. Tout. Moi, je ne disais jamais rien, je subissais. Il y a eu les cartes d'alimentation. Comme il ne fallait pas qu'on sache qu'on était étranger et que moi, j'avais appris le français, je ne sais pas comment j'ai appris le français. Pour moi, ça a toujours été comme si c'était ma langue maternelle. Ça s'est fait spontanément. Et je ne suis pas allée à l'école à ce moment-là, c'était spontané. Donc, qui est-ce qui allait faire les commissions? C'était moi. Quand il y avait une perquisition, qui est-ce qui allait ouvrir la porte? Et qui disait non, mes parents ne sont pas là, mais nous ne sommes pas étrangers. C'était moi. Je me souviens même une fois, on était en train de me baigner et on m'a enroulé dans des serviettes, puis on m'a poussé devant la porte. Ah non, je suis toute seule, mais non, nous sommes français, là, il n'y a absolument pas d'étrangers dans la maison. Donc, j'assumais ma petite responsabilité d'une façon indéfectible. Je n'ai pas dit un mot de catalan ou d'espagnol. Personne ne se doutait que je n'étais pas française. Tout ce que je savais dans ma petite tête, c'est qu'il fallait qu'on soit comme tout le monde en France. Et ça m'est resté, je le répète encore maintenant, je veux être comme tout le monde. Et pour moi, c'était la règle, il fallait, étant donné que c'était ma responsabilité, il fallait qu'on soit comme tout le monde. En tant que petite fille, j'étais comme tout le monde. On ne voyait pas que je n'étais pas française. Et ça ne s'est jamais vu. Quand mes enfants sont nés, ce sont eux qui ont commencé à dire que j'étais espagnole. Sinon, j'étais comme tout le monde. Je voulais être comme tout le monde. Maman ne s'appelait pas Federica Monseni. Elle avait changé de nom. Je me souviens qu'elle s'appelait Fanny Germain. Il ne fallait pas que je me trompe. Elle avait essayé de se camoufler. Elle s'était teint les cheveux en blond. Elle avait mis un grand chapeau noir et tout. Mais on la reconnaissait quand même. Hein. Donc il a fallu quitter Paris et la zone qui allait être occupée. Je me souviens des aventures qu'on a vécues sur une péniche pétrolière, sur le canal Le Loing. Et cette péniche, moi j'avais un petit col en renard et un petit chapeau en renard blanc. J'avais pas ma poupée, mais j'avais mon petit col et mon petit chapeau. Pour moi, pour une petite fille, c'était important. Et je me souviens qu'on était sur la péniche pétrolière et les avions nous bombardaient. Et maman m'arrachait le col et la petite toque pour les cacher, parce qu'on ne voyait que ça dans... Et moi, dès qu'elle ne me voyait pas, je les reprenais, je les mettais, parce que c'était ma pointe de coquetterie qui me restait quand même. Nous étions obligés de descendre en permanence de cette péniche, de nous cacher dans les arbustes quand les avions pilonnaient. Bref, on a fini par descendre de cette embarcation qui n'était pas possible. Et on a trouvé une brouette. Et je me souviens qu'on avait mis grand-mère dans la brouette parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Mon grand-père, choqué par ce qui venait d'arriver, avait absolument perdu la tête. Donc lui, il se baladait avec sa petite valise là, sous les avions qui bombardaient, tout ça, il n'avait plus conscience de rien. Donc toute cette petite armée comme ça qui s'avançait sur les routes avec la brouette, il y a des gens qui quittaient leur maison, qui ont eu pitié de nous et qui nous ont dit, bah, écoutez, nous on s'en va, mais si vous voulez vous occuper de la maison, nous vous la confions. Donc on s'est réfugiés pendant un moment dans une maison de Néronville. On n'était pas installés, il y a tout un régiment d'Allemands qui est venu occuper la maison. Et il ne fallait pas qu'ils sachent qu'on n'était pas français. Je jouais avec eux parce que c'était des hommes comme les soldats français. À l'époque, les soldats proprement dit n'étaient pas méchants, c'était la Gestapo. Il fallait aussi qu'on sorte de ce traquenard parce qu'on ne pouvait pas continuer à vivre comme ça. Donc on a évacué encore une fois. On est revenu à Paris, qui à ce moment-là était en zone occupée. Et il fallait absolument qu'on s'arrête, parce que là, les perquisitions, ce n'était plus le service d'immigration, c'était la Gestapo et qui cherchait les étrangers, surtout les étrangers rouges, disons, pour les amener là où on sait, dans les camps de concentration. Je ne sais pas par quel moyen on a réussi à joindre mon père, qui était en zone libre, lui, et qui nous avait trouvé une petite maison dans le Périgord, à Vert, proprement dit, entre Périgueux et Bergerac. Nous avons réussi à le retrouver, et là, nous avons commencé une autre vie, pensant que ce serait le refuge où mes parents seraient vraiment à l'abri, au milieu des bois, perdus dans la nature. C'était certainement pas là qu'il fallait aller, puisque la police n'a pas tardé à les retrouver tous les deux. Et donc mon père a été condamné à 20 ans, il a été jugé par le tribunal militaire de Toulouse, et il a été condamné à 20 ans de réclusion pour complot contre la sûreté extérieure de l'État. Il est resté à Nontron pendant pas mal de temps, et après il a été amené au camp de Mozac, où il a été libéré par le maquis et où il est parti le maquis. Quant à maman, elle, malgré la promesse qu'avait fait la France de ne pas estrader, si elle n'avait pas été enceinte de ma petite sœur, elle aurait été estradée et fusillée comme l'ont été les autres membres du gouvernement et d'autres personnalités.
Nous habitions dans une roulotte. Mon père avait trouvé, avec une équipe de gens qui s'étaient portés volontaires pour être bûcherons, un homme formidable qui s'appelait Tambouli et qui était assez jaloux, qui faisait des parquets et des lambris et qui faisait de l'abattage de forêt. Et ce Tambouli, je me rappelle qu'il portait un chapeau melon Nous sommes allés une ou deux fois à Déjac, lorsque j'ai eu un frère et une sœur, goûter chez lui, cacher les Espagnols. C'était un petit peu ce que faisaient des Français quand ils cachaient des Juifs, ce tabouri, cacher les Espagnols, qui étaient recherchés par les gens qui étaient des fascistes, hein, et qui cherchaient les Espagnols pour les faire partir dans des camps de concentration. Et ils en ont attrapé beaucoup. Il y a eu des manquants dans les rangs des guerriers où était mon père. Et il avait trouvé une solution, c'était de mettre, parce qu'il y avait pas mal de femmes quand même, qui avaient pu rejoindre, d'épouses, qui avaient pu rejoindre les Espagnols. Il y avait un genre de tam-tam qui devait fonctionner, puisqu'il n'y avait pas de courrier, il n'y avait rien. Et ces gens habitaient donc dans des roulottes, nous habitions dans des roulottes. Mon père coupait du bois, des arbres. Ils avaient tous des mitraillettes, des fusils, etc. D'ailleurs, il y avait des entraînements. Il m'est arrivé souvent de tenir les balles des mitraillettes lorsqu'elles couraient sur une langue qui rentrait dans la mitraillette, qui était sur un trépied. Et nous, on restait dans ces roulottes où j'ai vécu ma prime enfance. Et lorsque les bois étaient coupés à l'entour de l'endroit où nous étions, qu'il y avait une grande clairière, il y avait des chevaux qui arrivaient. Ils prenaient ces roulottes et les amenaient ailleurs.
Quand les Allemands arrivaient dans le petit patelin, la maîtresse nous faisait partir à travers champs. Donc je les traînais comme je pouvais jusqu'à la maison. Il y avait le maquis tout autour de nous. Quand le maquis arrivait, il venait écouter souvent la radio à la maison. On entendait les parachutistes qui... On les aidait à cacher leurs parachutes. Dans la tête d'un enfant de 8-10 ans à l'époque, je me souviens qu'ils avaient pris un médicien et ils l'avaient pendu dans un petit bois qui était tout près. Et j'entendais les conversations. Je ne me mêlais jamais aux conversations, mais... Et mon obsession d'enfant, je voulais voir ce que c'était qu'un pendu. Et on me rattrapait toujours quand je m'en allais vers le petit bois pour voir ce pendu. Je me souviens que je gardais les vaches. Comme on n'avait pas assez de terrain autour de la maison, on louait des prés en bord de route. Et une fois, je gardais donc les vaches dans ce pré. Et les Allemands sont passés. Ils étaient fous parce que comme il y avait des attentats, il y avait... Et ils m'ont mitraillé. Une gauche, je devais avoir 8 ans à l'époque.
À Casteljaloux, les Espagnols avaient des fusils. Ils avaient des fusils et ils avaient pas mal de balles, d'armes, de munitions. Enfin, je les voyais, les armes, je m'en servais, je visais. Bon, il y a été un moment où, dans la forêt, on s'est servi contre les Allemands et j'étais derrière mon père. Mais d'où elles venaient, je ne sais pas. Ce que je sais, ce que j'ai vu, puisque là, on était planqués dans une maison du village, à Casteljaloux, il y avait les troupes qui sont allées détruire la ville d'Oradour. Il y avait des armes qui étaient balancées dans la forêt par les Anglais. Ce que j'ai vu, c'est dans l'école primaire de Casteljaloux, deux Anglais qui avaient été attrapés. On nous a pris les enfants, les Allemands, on nous a pris les enfants, on nous a fait sortir des classes. Les Allemands, à coups de pied de tout le monde, instituteurs, tout, on était dans les classes. Et ils ont mis les deux enfants contre les grilles et ils les ont tués devant nous tous. Ce sont des souvenirs qui sont durs, forts. Ils ont tué les deux Anglais. Et ce que j'ai vu qui était terrible, c'est que les Allemands se promenaient autour de la place. Ils avaient mis des fûts d'essence. Ils les avaient couchés par terre. Ils les faisaient couler dans la rigole autour de la place et dans les rigoles du village. Et les Allemands se promenaient pour que les guerrilleros ne viennent pas, et les maquisards ne viennent pas, comme il y avait la population. Et ils se promenaient avec des torches allumées en disant à la population, si les guerrilleros et les maquisards viennent dans le village, on incendie le village. Et ils faisaient couler l'essence. Et puis, au bout d'une nuit, ils ont disparu. Et ils sont allés faire ce qu'ils ont fait à Ouradouche. Ce qu'il restait du communisme espagnol, c'était un journal qui s'appelait Mundo Obrero, journal que mon père distribuait en bicyclette la nuit et où il me prenait, lorsque j'avais 3-4 ans, sur le, parce que la bicyclette était un tandem, et moi j'étais assis à l'autre bout, et j'étais assis sur des sacoches. Et dans ses sacoches, c'était bourré de ses journaux. Si on avait pris mon père, surtout que naturellement c'était le gouvernement de Vichy, à ce moment-là, nous aurions, mon père aurait été déporté en Allemagne. La nuit, nous allions dans les fermes et dans les villages, en catimini, mon père tapait à la porte, ou lorsqu'il y avait des endroits que je connaissais déjà, j'allais glisser en grattant dans les portes des maisons. Ce journal qui était pour des Espagnols qui habitaient là, et c'était un journal communiste qui s'appelait Mundo Obrero, que j'ai vendu ensuite à Narbonne pendant de nombreuses années devant le marché, et ce qui était interdit.
Dans le Périgord, c'est là que j'ai vraiment reçu une éducation en français. J'avais une maîtresse extraordinaire qui m'adorait. J'étais devenue sa chouchou, puis j'étais la meilleure élève. Je ne sais pas comment j'ai fait, parce qu'il me manquait les bases au départ. J'ai assisté quelquefois à des interpellations désagréables vis-à-vis de mon père ou vis-à-vis de ma mère, en tant qu'étranger. Va dans ton pays, qu'est-ce que tu fais en France? Mais vis-à-vis de moi, jamais.
C'est un espagnol
de merde.
Va dans ton pays, qu'est-ce que tu fais en France?
Espagnol de merde, macaque.
Les espagnols qui veulent manger le pain des Français.
Espagnol de merde, sans rage.
Espagnol de merde. C'est un espagnol.
Les espagnols de merde.
Il y avait beaucoup de pétainistes. Beaucoup de pétainistes. Et les républicains espagnols étaient en trop. Hein. Aujourd'hui, c'est les Arabes qui sont en trop dans certains endroits, mais que disent certains, comme Le Pen et d'autres, bien entendu. Mais à ce moment-là, les Espagnols, j'ai beaucoup souffert, moi, étant enfant, à l'école de la République française, que j'ai beaucoup aimé, et qui m'a permis d'être premier en français, tout simplement parce qu'on me traitait de sale espagnol, et des Espagnols qui venaient manger le pain des Français dans mon quartier. C'était quelque chose de difficile, ça. D'ailleurs, on m'a appelé l'Espagnol jusqu'à l'âge de 20 ans, à peu près. Après, on a hésité, parce que j'ai dû donner pas mal de coups de poing pour ça. Et c'est pour ça que j'ai été, d'ailleurs, le premier en français, tout le temps. C'était pas très bon en mathématiques, mais en français, je faisais des efforts. Je me suis engagé à un mauvais moment d'ailleurs, parce que c'était la guerre en Algérie. Et je me suis donc engagé à ce moment-là pour avoir la nationalité française. Entre parenthèses, maintenant, la nationalité française est une nationalité que l'on atteint ou que l'on peut avoir assez facilement. Mais moi, j'ai fait 3 ans d'armée et je n'ai voté que 5 ans après. Parce que j'étais espagnol. J'aurais pu mourir espagnol dans l'armée française. Mais pour voter, il a fallu que je vote 5 ans après. C'est-à-dire en 64.
Je suis née à Barcelone, mais mes racines, elles sont dans le Périgord maintenant. Parce que c'est là où j'ai vécu une partie de mon enfance. Et je me suis accrochée à ces racines-là. C'est curieux. Si je meurs et je vais être incinérée, ben, que mes cendres qu'on les disperse dans le Périgord. Ça ne me viendrait pas l'idée de dire Barcelone, alors que pourtant, c'est une ville que j'aime beaucoup, mais je la considère pas comme ma ville vraiment de naissance, quoi. C'est curieux, mais je ne sais pas comment expliquer ça.
Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations avec Vida Esgleas Monseni et Juan Parra. Témoignage recueilli par Marianic Bello, Dominique Vasseur et Adrien Delgrange. Musique originale Guillaume Séguron. Un documentaire de Jean-Paul Gambier et Bruce Torrente, Radio Clapas. Mémoire des républicains espagnols, une série coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon, Direction de la culture et du patrimoine.